J'aimerais parler ce matin sur comment recevoir la vie éternelle. Dans Luc, chapitre 10, au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie, et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Alors nous pensons généralement qu'il faut toujours faire quelque chose pour le mériter, quelque chose de bien. Par exemple, à l'école, eh bien, si on avait bien travaillé, on avait des bons points, on avait des notes de reconnaissance et ça nous valorisait. Donc faire des choses pour obtenir une grâce, pour obtenir une promotion, pour obtenir une faveur. Et c'est un peu le fonctionnement dans lequel nous sommes. Il y a quelques années, un de nos précédents présidents, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, a donné ce slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Aujourd'hui, il a gagné plus de soucis, néanmoins. Mais la grâce, c'est un autre concept. Dans Jean, chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est cette grâce que j'aimerais expliquer ce matin, car la grâce n'est pas dans notre état d'esprit. Nous sommes basés sur les mérites, c'est-à-dire comment faire pour gagner la faveur de Dieu. Tandis que la grâce n'est pas basée sur nos mérites, mais elle est basée en fonction de la bonté de Dieu envers tous les hommes. Et ça, c'est extérieur à la pensée de l'homme. Alors, regardez cet homme qui est un docteur de la loi, c'est-à-dire un religieux de l'époque. Et lui, sa relation avec Dieu est fondée sur les mérites, exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, la première question qu'il pose au Seigneur, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ? Qu'est-ce qu'il faut encore que j'accomplisse ? Quel pèlerinage je dois faire ? Quel temps de jeûne ? Quel commandement je dois observer ? Quelles choses je dois mettre en pratique ? Etc., etc. Mais si vous rentrez dans ce domaine-là, vous vous rendrez compte qu'il n'y en aura jamais assez. Parce que ce n'est pas la manière de s'approcher de Dieu. Ça ne fonctionne pas sur le plan spirituel. Pourquoi ? Parce que pour hériter la vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui le donne gratuitement en fonction de sa bonté, de son amour et de sa miséricorde. Exactement comme un couple qui, ils se marient, ils ont des enfants. Eh bien, cet enfant, c'est un cadeau de Dieu. Les parents vont aimer cet enfant. Cet enfant n'a rien fait pour le mériter, il est venu au monde. Gloire à Dieu pour les naissances. Mais l'amour des parents pour leur enfant, eh bien, cet enfant n'a rien fait de particulier, il n'a fait aucune œuvre spéciale, mais déjà, il a l'amour de ses parents. Il y a quelques temps, il y a quelques moments que je n'ai pas fait de présentation d'enfant. Alors, je lance un appel. Je lance un appel parce que C'est une joie de faire des présentations d'enfants. Alors, je m'adresse à tous les parents qui ont moins de 60 ans. Hein, parce que sinon, c'est plutôt grands-parents après. Voilà, je bénis le Seigneur pour notre frère Jérémy Gadrois qui était avec nous hier soir, vous savez. Pour nous, c'est un modèle à tous. Car il est père de 6 enfants. Voilà. Donc, si vous en avez un ou deux, envisagez, peut-être pas jusqu'à 6, mais au moins détendre la famille. Alors, ces enfants, ils arrivent au monde, et ça, c'est une grâce de Dieu, et ils ont l'amour de leurs parents. C'est une bénédiction. Mais c'est un petit peu vrai pour nous, car comme nous sommes nés de nouveau, nous avons l'amour de notre Père qui est inconditionnel. Alors, la parabole du bon samaritain que nous avons lue, il y a 4 points que j'aimerais voir avec vous dans cette parabole. Le premier point, c'est d'abord le choix du style de vie. Jésus dit, c'est au verset 30, « C'est un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. » D'abord, c'est un homme dont nous ne connaissons ni le nom, ni l'âge, ni la profession, ni même la religion. Simplement, nous savons qu'il quitte Jérusalem. Mais cet homme, il représente finalement chacun de nous. Ensuite, nous voyons son choix. Son choix, c'est de quitter Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, pour aller vers Jéricho, qui est la ville des palmiers, mais c'est aussi une ville de péché. Et il faut savoir qu'entre Jérusalem, qui est située sur les hauteurs, environ à 800 mètres d'altitude, et Jéricho, qui est située en dessous du niveau de la mer, moins de 150 mètres, c'est la ville la plus basse de la planète. Il y a un dénivelé de plus de 1000 mètres. Et en fait, quand vous quittez la présence de Dieu, vous ne pouvez que décliner. Vous ne pouvez que vous enfoncer. Et Jéricho, on va dire, c'est le point le plus bas qui existe. Eh bien, ça peut représenter le plus bas tombé, le péché qui est loin de la présence de Dieu. Il faut savoir que Jéricho, le nom même de Jéricho, vient d'une divinité lunaire, parce que les gens adoraient les astres, ils adoraient la lune, les étoiles. Et le nom même de Jéricho, c'était un haut lieu d'adoration des faux dieux, des idoles et des dieux de la lune, des astres. Donc c'est vraiment un lieu qui est loin du Seigneur. Cet homme aurait pu choisir de rester à Jérusalem, mais il a pris la route du péché, la route qui descend, la route qui nous éloigne de Dieu. Vous savez que c'est Paul qui le dit, le salaire du péché, c'est la mort. On pourrait dire qu'il a pris la route de la mort, la route de la perdition. Et la vie que nous menons, c'est une succession de choix. Nous avons fait des choix, peut-être dans le passé, qui déterminent maintenant notre présent. Et ce sont des lois. Et la loi du péché, c'est une loi qui va toujours nous entraîner vers le bas. C'est une loi puissante, le péché. Vous savez, c'est un peu comme la loi de l'attraction. On ne peut pas s'extraire de cette loi. Cette loi nous ramène toujours par terre. Si vous voulez sauter, automatiquement, vous allez retomber. C'est une loi puissante. Mais il existe une autre loi qui est plus puissante que la loi de l'attraction. Par exemple, quand vous faites décoller une... Par exemple, Ariane 5, quand les ingénieurs font décoller la fusée Ariane 5, elle pèse en réalité plus que 7000 tonnes. C'est difficile à bouger une masse pareille. Mais ils mettent du carburant, du kérosène, ils mettent tout le nécessaire pour développer une puissance dans cette fusée qui va permettre qu'elle décolle et qu'elle échappe à la loi de la pesanteur qui la fait ramener vers le bas. Mais il faut une puissance. Et cette puissance, elle est énorme. Ça représente 160 millions de chevaux. C'est quelque chose de très puissant. Mais ça existe. Vous savez, si on avait dit ça à l'époque du Moyen-Âge, on aurait expliqué aux gens, il y a une puissance qui existe qui permettra d'envoyer des engins dans l'espace. Personne n'aurait pu croire à une chose pareille. Pourtant, dans les lois physiques, c'est possible. Eh bien, c'est ça, la réalité spirituelle. C'est qu'on est tellement embourbé dans le péché que peut-être on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais il existe une autre loi, qui est la loi de Christ. Car Christ est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et selon cette loi, nos péchés sont pardonnés et nous pouvons sortir de la vie du péché. Exactement comme la fusée va s'extraire de l'attraction de la loi terrestre. Eh bien, si nous venons en Christ, si nous recevons cette puissance, cette grâce, nous pouvons aussi vivre une vie libérée du péché. Il y a toujours des tentations. Vous voyez, cet homme, il voyait Jéricho, la ville des palmiers, il voyait peut-être ça comme un temps de loisir, un temps de confort. Mais regardez Lot, le neveu d'Abraham. À un moment donné, ils ont dû se séparer à cause de la multitude des troupeaux qui étaient là. Ils avaient beaucoup de biens. Et Abraham dit, choisis, moi j'irai de l'autre côté. Et quand Lot a vu la vallée de Sodome et de Gomorre, il ne l'a pas vu comme un lieu dont il fallait se méfier. La Bible dit qu'il l'a vu comme un jardin arrosé, comme le jardin de l'Éternel, comme un lieu de bénédiction. Mais j'ai noté dans Genèse 13, verset 13, ce que Dieu dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et ça, c'est la vision spirituelle. On peut dire que Lot, il s'est laissé piéger par la vision terrestre. C'est un bel endroit. Il y a un jardin arrosé. Ça ressemble au jardin des délices, au jardin d'Éden. Il y a vu peut-être une bénédiction. Ce n'était pas la vision de Dieu. Et il nous faut prier pour que nous ne soyons pas piégés par notre propre vision des choses, mais que ce soit la vision de Dieu. Et Dieu voulait lui dire, attention, si tu vas dans cet endroit, tu vas être contaminé par certaines choses parce que tu es encore faible, tu as besoin de te fortifier, reste dans la présence de Dieu, reste dans la montagne. Non, il n'a pas écouté, il est parti. Et puis pour lui, ça a très mal tourné par la suite dans sa vie. Donc cet homme a quitté Jérusalem. Alors les épreuves, c'est le deuxième point, les épreuves vont se succéder maintenant pour lui. Je vois dans le texte qu'il va tomber au milieu des brigands. Au milieu des brigands. On peut dire qu'il n'a pas eu de chance. Il y a une dame qui m'a dit, il y a plusieurs années de cela, elle m'a dit, oh, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Effectivement, elle était partie un jour faire du hors-piste avec son mari. Ils étaient mariés depuis 3 ans seulement. Et ils ont décidé de prendre un circuit avec hors-piste. Hors-piste, c'est-à-dire avec danger quand même. Alors, ils étaient assez forts et ils ont bien skié, mais au bout d'un moment, ils ont déclenché une avalanche. Et malheureusement, le mari a été pris dans l'avalanche et le temps que les secours arrivent, ils n'ont pas pu le rattraper vivant. Elle a perdu son mari ce jour-là et ça a été un drame terrible dans sa vie. Quel drame, quelle injustice parfois la vie. Comme cet homme qui descend la route de Jérusalem à Jéricho et qui est frappé par des voleurs, par des brigands. Mais moi, derrière ces voleurs et ces brigands, je vois une image du malin, du diable. Car cet homme est dépouillé. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin, on vous a dépouillé. Mais l'ennemi le fait. Peut-être vous aviez une image pure du mariage. Vous étiez engagé pour la vie. Et on vous a battu, on vous a trompé, on vous a dépouillé. Et une personne me disait, il y a quelque temps, mais moi, j'ai tellement été déçu, je ne peux plus croire dans l'amour. Pourquoi ? Parce qu'elle a été dépouillée. L'ennemi vous a volé votre joie, il vous a volé votre confiance, il vous a volé votre paix. Mais ce que je remarque dans la parole de Dieu, c'est même si nous passons par ces épreuves, la situation n'est pas définitive. Satan voudrait vous faire croire que pour vous c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, vous êtes dépouillé. Maintenant, l'amour n'existe pas. Il vous trompe parce qu'il est menteur et il vous fait croire des choses fausses. Alors, vous avez peut-être été dépouillé. Peut-être on vous a chargé de coups. C'est le deuxième, l'autre élément qu'on voit. Il a été chargé de coups, frappé. Et peut-être on vous a accusé de choses fausses. On vous a traîné dans la boue, humilié publiquement. On vous a ridiculisé en disant que vous étiez incapable. Et vous savez que le monde est dur. Et que les paroles d'encouragement, vous n'en avez pas pour une parole d'encouragement, vous avez 10 paroles de découragement, c'est comme ça. Et donc, vous avez été chargé de coups. L'ennemi vous renvoie même une image pour vous dévaloriser. Et finalement, vous croyez cette image et vous dites, je suis nul, personne ne m'aime, je n'en vaux pas la peine. Alors, ne laissez pas ces mauvaises pensées venir à vous, parce que ça, c'est des pensées de l'adversaire. Un jour, dans un cours que nous faisons le dimanche après-midi qui s'appelle les cours INSTE. Il y a une étudiante qui avait mal répondu à une des questions et puis elle avait dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis nul !» Alors je lui ai dit « Non, ne dis pas que tu es nul, mais dis que tu as mal répondu, mais ne dis pas que tu es nul. Et c'est vrai, nous ne sommes pas des nuls. Nous faisons des erreurs, nous nous trompons souvent même, mais nous ne sommes pas nuls. Nous avons une valeur, Dieu nous aime, et c'est ça qu'il faut proclamer. Il ne faut pas proclamer que nous ne valons rien, il ne faut pas proclamer que nous sommes nuls, que nous sommes moins que rien. D'ailleurs, j'ai jamais vu Jésus dire ça à ses disciples. Vous êtes des nuls, vous êtes des incapables, avec vous on ne peut rien faire, je ferais mieux de changer d'équipe. Jamais. Pourtant, ils ont fait des erreurs presque tout le temps, mais le Seigneur les encourageait, les exhortait. Là, il faut faire comme ça, là, il faut jeûner, là, il faut prier. Il leur donnait les moyens de s'en sortir. Eh bien, Jésus, il agit comme ça avec nous. Et il ne nous dit pas, tu es un incapable, tu n'en vaux pas la peine, je ne vais rien faire avec toi. Mais il nous dit, voilà, tu es tombé, tu peux te relever, le Seigneur va t'aider, reprends la marche, fais confiance à Dieu et tu vas pouvoir triompher. Le Seigneur est plein d'encouragement. Il voit nos capacités, il voit aussi nos difficultés, nos peines. Alors peut-être nous, quand nous regardons facilement, nous voyons les défauts. Hein. Nous pouvons dire à celui-là, vraiment, il est vraiment mauvais, hein, il a raté, etc. C'est facile de voir les défauts des autres. Un jour, il y a un moniteur qui est venu dans sa classe d'enfants à l'école du dimanche, comme cela, avec une grande feuille blanche. Et il avait fait un petit point noir au milieu. Et il a demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voyez? Et tous les enfants ont dit, une feuille blanche. Tous les enfants ont dit, un point noir. Un point noir. Ils voyaient le point noir, mais ils ne voyaient pas la grande feuille blanche. Donc c'est plus facile de voir le petit défaut que de voir ce qui est bon. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire focaliser sur le point noir. Le défaut, ce qui a raté. Donc, on a été chargé de coups. Peut-être on a été laissé à demi-mort, comme dit le texte. Cet homme est laissé à demi-mort, c'est-à-dire qu'on vous a laissé dans un coin, on vous a mis de côté, on ne tient pas compte de vous. C'est quelqu'un qui me disait, parce qu'on l'a mis, on l'a changé dans son travail, et il me disait, on m'a mis au placard. Ça veut dire, on m'a mis de côté, on ne s'intéresse plus à moi, ma carrière est terminée. Et ça, ça peut arriver aussi, et on peut être déçu comme laissé à demi-mort. Et il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans notre cœur parce qu'on a été déçu. Peut-être on a été déçu des autres, mais peut-être on a été déçu de Dieu qui n'a pas répondu. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est à demi-mort? Eh bien, on n'a plus la joie, on n'a plus la paix, on ne ressent plus la présence de Dieu. Mais je remarque une chose, c'est le mot « demi ». Quand on est à demi-mort, ça veut dire qu'on est quand même à demi-vivant. On est à demi-vivant. Et dans un sens, avec ce demi-vivant, Dieu peut faire encore quelque chose. Parce que quand on sera complètement mort, notre âme, elle sera partie dans l'éternité. Mais si on est à demi-mort, on est à demi-vivant. Et ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Vous voyez, un jour, les disciples, Jésus les a entraînés avec lui dans la barque pour traverser le lac. Et il leur a donné la direction. Allons de l'autre côté. Lui était fatigué, la Bible dit qu'il s'est endormi tranquillement à la poupe du navire. Et pendant la traversée, est survenue une grande tempête. Ah, les disciples ont donc essayé d'enlever l'eau qui rentrait dans le navire. Ils n'ont pas voulu déranger le Seigneur qui dormait, qui arrivait à dormir malgré les perturbations. Et puis au bout d'un moment, la barque se remplissait d'eau, ils sont allés réveiller le maître en disant, c'est dans Luc 8, 24, ils s'approchèrent le réveiller et dirent, maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alors, qu'est-ce que disent les disciples? Maître, maître, réveille-toi, nous périssons. Une autre version dit, dans un autre évangile, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Oui, ils disent nous périssons au présent, mais en réalité, ils sont encore bien vivants. Ils sont à demi-morts, mais à demi-vivants. Et tant qu'ils ne sont pas complètement morts, ils peuvent encore prier, ils peuvent encore chercher la face de Dieu, ils peuvent encore aller vers le Seigneur et dire « Seigneur, viens exaucer notre prière, viens à notre secours ». Donc ils ont la bonne démarche. Ils sont à demi vivants. Alors quand on est à demi mort, il y a encore de l'espoir. Malgré les souffrances, malgré les coups que vous avez reçus, peut-être les pleurs, il y a un verset d'un psaume qui dit que Dieu entend la voix de nos larmes, et nous en avons. Malgré les injustices, vous êtes encore là, peut-être à demi-mort, mais en même temps à demi-vivant. Et Dieu a un plan de restauration. Il va prendre notre vie et il va nous redonner tout ce dont nous avons besoin, tout ce que l'ennemi a détruit. Et c'est un petit peu comme dans l'ordinateur, quand il commence à avoir des virus, au bout d'un moment, il commence à bugger de partout. Et la meilleure solution, c'est de faire une restauration totale. Alors c'est un peu long, des fois, un peu compliqué, mais une fois qu'on a fait tout le processus, eh bien, on retrouve l'ordinateur comme il était, en sortie d'usine, restauration totale. Eh bien, quand vous venez au Seigneur, vous venez peut-être à demi-mort, contaminé par toutes sortes de virus, mais lui, il va faire une restauration totale. Il va vous donner un nouveau cœur, des nouvelles pensées, une nouvelle manière de voir la vie, et ça va changer toute chose dans votre existence. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point maintenant, l'inefficacité des religions au verset 32. Car le sacrificateur et le lévite qui vont passer représentent les religions. Les religions sont nombreuses. Vous savez peut-être, il existe plus de 10 000 religions dans le monde. Mais ce sont toutes des tentatives pour chercher Dieu ou chercher quelque chose dans l'au-delà. En réalité, Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus. Il est venu nous montrer comment entrer directement en relation avec Dieu pour avoir la paix, pour avoir la vie éternelle. Alors regardons ces deux hommes. Au verset 32, d'abord 31, un sacrificateur qui descend par le même chemin, voit le malheureux, mais il s'esquive, il passe outre, il ne reste pas. Pourquoi ? Cet homme est un sacrificateur, ça veut dire qu'il offrait des sacrifices d'animaux dans le temple pour les Juifs. C'était la manière d'adorer de l'époque. Vous apportiez donc un animal au temple et le sacrificateur allait offrir l'animal pour vous sur l'autel. Le sacrificateur, c'est cela. Et donc, il était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc, vous ne pouviez pas apporter directement votre offrande à Dieu, vous passiez par le sacrificateur. Peut-être a-t-il eu peur quand il a vu cet homme blessé. Il s'est dit, oulala, si je reste ici, que les brigands ne sont pas loin, ça va être mon tour. Et il a préféré fuir. Mais il n'était pas proche du blessé. Le lévite, c'est un autre religieux qui, lui, sa fonction, c'est d'interpréter la loi correctement. Encore un intermédiaire. C'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas bien comprendre la loi, alors les lévites étaient chargés de leur expliquer la loi afin qu'ils l'interprètent bien. Mais seulement, ils avaient rajouté leur propre loi. Ils avaient rajouté 613 commandements aux 10 commandements. Ils avaient rajouté beaucoup de livres et d'ouvrages religieux. Et finalement, la loi était obscurcie. La parole de Dieu est bonne. Mais si on l'interprète mal, elle devient mauvaise. Donc, il fallait tout simplement recevoir la parole telle qu'elle est écrite. Et quand il a vu cet homme, on voit que la parole n'a pas d'effet sur lui. Il ne s'arrête pas pour aider le blessé. Et le quatrième point, c'est le dernier, c'est donc ce Samaritain. Un Samaritain qui voyageait, l'ayant vu, fut ému de compassion quand il le vit. Alors ce Samaritain représente qui ? Il représente Jésus. Pourquoi ? Car Jésus, comme le Samaritain, est venu apporter la grâce. C'est vrai, c'est un étranger. Ben, Jésus a été mal considéré, il a été mal accepté par son propre peuple, car il ne voyait pas en lui le Messie. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il a fait un grand voyage, c'est-à-dire que le Seigneur a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et puis enfin, ce Samaritain, il est plein de compassion. Et lorsqu'on voit Jésus, on le voit toujours plein de compassion pour aider les blessés. D'abord, pourquoi je dis il apporte la grâce ? Parce que ce blessé sur la route, il n'a rien demandé à personne. Il est blessé, il est malheureux, il ne peut rien faire pour s'en sortir. C'est le Samaritain qui va venir à son secours. Et c'est ça la grâce de Dieu manifestée en Christ. C'est que c'est Dieu qui vient à notre secours par Jésus-Christ. Et pour cela, je voulais lire Tite chapitre 3, verset 4. Tite chapitre 3, verset 4 et 5. Mais lorsque la bonté de notre Dieu, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors dans ce texte, tout commence avec la bonté de Dieu. Dieu est bon et Dieu fait grâce. Ensuite, cet amour s'est manifesté comment ? Eh bien, il a envoyé Jésus. C'est l'image du bon samaritain qui va venir vers ce blessé. Alors, ce blessé n'a pas fait des œuvres de justice, il n'a pas fait des choses extraordinaires, il est tout simplement blessé, il est perdu. Donc, ce n'est pas à cause de ses œuvres que le samaritain s'est approché de lui, mais c'est parce que le samaritain était bon et qu'il a voulu aider cet homme. Le texte dit, c'est selon sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Le bain de la régénération, c'est la nouvelle naissance que Dieu nous donne et le renouvellement du Saint-Esprit. Deuxième élément que je vois pour montrer que c'est Jésus, après la grâce, le Samaritain apporte la guérison. Et on sait que Jésus est venu pour apporter la guérison aux blessés. Il a soigné cet homme. La guérison, c'est aussi une grâce. Personne ne mérite d'être guéri. Alors il vient avec de l'huile, avec du vin. On sait que l'huile, c'est le symbole pour adoucir nos plaies, nos blessures de la vie. Et qui n'a pas eu un cœur blessé, eh bien, Jésus vient avec son huile du Saint-Esprit pour réconforter nos cœurs. Et puis le vin, c'est un peu comme l'alcool, ça sert à cicatriser. C'est un autre élément qui va permettre que les blessures soient bien refermées et qu'on puisse tourner la page. Quelquefois, on traîne comme ça des blessures, on traîne des souffrances depuis l'enfance. Personne n'a pu nous guérir. Peut-être c'est votre meilleur ami qui vous a trompé avec votre conjoint qui est parti avec votre compagnon ou un collègue de travail qui vous a écarté pour prendre votre place. Ça crée des blessures tellement profondes qu'il n'y a rien, il n'y a pas de médicament qui peut soigner ces cœurs. Mais Jésus vient avec de l'huile, Jésus vient avec du vin pour cicatriser. Et ainsi, il va avoir la puissance de restaurer nos cœurs. Alors peut-être, si vous n'avez pas reçu le Seigneur, vous avez un sentiment de vengeance et vous dites, ou si jamais je le revois, ou si je la revois, je lui réglerai son compte. Mais ça mène où ? Perte de sommeil, perte d'appétit, les amis s'échappent, on devient aigre, un petit peu comme du vinaigre, et ça fait fuir les autres. Donc la seule solution, elle est ici, c'est d'apporter notre cœur blessé, le mettre entre les mains du Seigneur Jésus, et de compter sur lui pour nous guérir. Et lui, il nous a créés, il sait comment nous restaurer, nous réparer. Alors peut-être ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas juste. C'est exactement comme cet homme. Il n'a rien demandé, il n'avait pas fait de mal à personne, il était simplement un voyageur sur la route. Mais il a été frappé, il a été maltraité, il a été humilié. Et ce n'est pas normal. Peut-être ce qu'on vous a fait, ce n'est pas normal. Et la première réaction de cet homme, ça pourrait être la vengeance. Et de se dire, ils m'ont fait du mal, je me réglerai mes comptes, je les retrouverai, et je me vengerai. Mais cette vengeance-là n'est pas de Dieu. Et peut-être l'ennemi dit à votre esprit, toi, il t'a fait souffrir, tu vas le faire souffrir 7 fois plus qu'il t'a fait souffrir. Ainsi pour enclencher cette haine, cette violence, cette méchanceté. Et ça, c'est la voix de l'adversaire. Alors que le Seigneur nous délivre de cette pensée-là, afin de bénir et de ne pas maudire. Un autre élément pour lequel je vois dans le Samaritain une image de Jésus, c'est qu'il va emmener ce blessé à l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, ça représente bien l'Église. Car l'hôtellerie, on prend soin des blessés. Il y a des blessés de la vie, il y a des personnes qui ont été maltraitées, malmenées, ils viennent dans l'Église, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, ils reçoivent dans la communion avec les frères et les sœurs des encouragements, et il y a des soins. Alors l'Église, c'est un peu une image d'un hôpital. Il y a un petit peu comme ici, il est soigné dans une hôtellerie, mais c'est pour des soins. Un petit peu comme dans un hôpital, il y a la section des soins intensifs. Les soins intensifs, c'est pour ceux qui ont été blessés par la vie et qui ont besoin d'être restaurés. Quelquefois, il y a les urgences, parce qu'on a été attaqué, on est dans une difficulté, et les urgences, on a besoin d'une intervention de Dieu. Il y a aussi la maternité, parce que il y a des nouvelles naissances, gloire à Dieu pour les nouvelles naissances. On a eu dimanche dernier 2 baptêmes, mais avant les baptêmes, il y a des nouvelles naissances. Et c'est Dieu qui les permet, c'est d'abord des nouvelles naissances dans les cœurs. Et après, on confirme par le baptême. Donc il y a une maternité, il y a une pédiatrie, Et il y a même une gériatrie, parce qu'on s'occupe aussi des personnes âgées. On s'occupe du bébé jusqu'à la personne âgée. Voilà, c'est ça l'Église. Pour tous les âges, pour toutes les situations. Et cet homme, donc, va être emmené dans l'hôtellerie. Et il va dire, tu prendras soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Et il va donner de l'argent au responsable de l'hôtellerie pour s'occuper du blessé. Donc, ce n'est pas simplement avec des médicaments qu'on sera guéri, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement avec des thérapies humaines. Mais il y a, en fait, un médicament par excellence, c'est la parole de Dieu. Alors, je disais ceci à une personne il y a quelque temps. Quand on va chez le médecin, on est malade, on a attrapé un virus, quelque chose, alors le médecin va nous prescrire une ordonnance. Souvent, dans l'ordonnance, il va dire, vous prendrez tel médicament, matin, midi et soir, etc. Et il fait une liste, 2-3 médicaments. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous repartez de chez le médecin avec l'ordonnance, vous allez à la pharmacie, vous achetez les médicaments. Le matin, vous prenez ce qui est indiqué, le midi, ce qui est indiqué, le soir, ce qui est indiqué. C'est normal. On suit les prescriptions, ce sont des spécialistes. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Mais j'expliquais à cette personne, eh bien, vous allez prendre la parole de Dieu et vous allez en prendre matin, midi et soir. Alors le matin, psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Vous allez proclamer ça le matin. Le midi, psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Cette personne était tellement découragée, elle était tellement dévalorisée, elle avait besoin de restaurer une bonne image d'elle. Et puis le soir, je lui dis, le soir, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous prenez ça le matin, le midi et le soir. Et vous allez voir qu'au bout d'une semaine, ça y est, on est restauré dans notre esprit. Mais il faut le faire, frères et sœurs. Et si au bout d'une semaine, ce n'est pas suffisant, vous recommencez et vous rajoutez un deuxième verset à chaque fois. Et vous allez voir que c'est efficace et c'est puissant pour restaurer un esprit accablé. Alors ça ne va pas plaire au diable si vous faites cela, parce que vous allez mettre la parole de Dieu dans vos pensées. Et lui, justement, il veut anéantir vos pensées afin que vous doutiez, afin que vous vous considériez comme incapable, que vous ne valez rien, que personne ne vous aime. Donc il vous communique des pensées comme cela. Et puis si vous n'avez pas la parole dans votre esprit, vous allez finir par croire les paroles du diable. Donc ces paroles qui vont être dans votre esprit, ça va être comme un bouclier. L'ennemi va continuer à vous attaquer, mais vous aurez la parole dans votre esprit. Donc n'oubliez pas, matin, midi et soir. Un verset à chaque fois. Vous le proclamez, et ça c'est efficace contre le tentateur. Là vous pouvez répondre. Là vous pourrez résister. Là vous pourrez combattre. Une personne me disait il y a quelque temps, je vois aujourd'hui que Dieu ne guérit plus. Il me dit, Dieu ne guérit plus. Il a guérissé au temps des... Jésus faisait des miracles et tout, mais aujourd'hui, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus rien. Alors, je lui dis, c'est pas que Dieu ne... Alors, il disait, Dieu n'agira pas pour moi. Je lui dis, mais oui, mais la Bible dit que Dieu, ses promesses, c'est pour ceux qui croient. Toi, si tu ne veux pas croire, la promesse, elle n'est pas pour toi. Bon, ça ne lui a pas fait très plaisir que je lui dise ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous ne voulez pas croire, personne n'est obligé de croire. Mais si vous dites, oui, Dieu ne guérit pas aujourd'hui, il ne fera rien pour moi, vous restez comme ça, vous ruminez là-dessus, c'est ce qui risque de vous arriver très certainement. Mais au contraire, si vous affirmez les paroles de Dieu, que Dieu est bon, que Dieu guérit encore aujourd'hui, que Dieu est fidèle, vous pouvez vous attendre à recevoir la guérison. Mais ne vous attendez pas à recevoir la guérison si vous dites que Dieu ne guérit pas. Vous dites le contraire de la parole de Dieu. Alors ça, c'est un langage à changer, c'est un défaut que nous avons, c'est que nous voyons souvent le négatif. Mais rappelez-vous que les promesses sont pour nous, ces enfants, mais nous devons croire dans notre cœur que ce que Dieu dit est la vérité. Alors, on va terminer sur la parabole du bon samaritain. C'est le samaritain qui a été le prochain du blessé. Le docteur de la loi, Jésus lui pose la question, mais qui est le prochain de cet homme blessé, et il n'arrive même pas à prononcer le mot de samaritain parce qu'entre les juifs et les samaritains, il y avait des tensions. Mais Jésus lui fait prendre conscience que tu dois aimer aussi ce type de prochain-là, qui est peut-être un étranger pour toi, c'est peut-être un exclu, et que de même que Dieu nous a fait grâce, eh bien que nous devons tendre la main et faire grâce aux autres. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. On va prier quelques instants. Peut-être quelqu'un est venu ici pour la première fois ou les premières fois et vous n'avez jamais même entendu parler de la vie éternelle ou la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui vous échappe. Eh bien, elle est pour vous aussi. Car comme je l'ai dit, Dieu est bon envers tous les hommes. Qui que vous soyez, même si vous êtes très loin du Seigneur, le Seigneur vous aime. Et moi, j'aimerais prier avec vous et peut-être vous laisser l'opportunité de faire un pas de foi et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision personnelle que vous pouvez faire aujourd'hui. Si c'est votre choix, si c'est votre décision, eh bien, moi, j'aimerais prier pour vous parce que c'est une bonne décision. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous montre que tu as un plan plein de bonté et d'amour envers chacun et que tu es là, Seigneur, pour relever celui qui est abattu. Tu as encore, Seigneur, des solutions en réserve pour tous ceux qui sont bas tombés, qui sont plus bas que terre, qui ont été maltraités par la vie, qui ont été frappés, humiliés, rabaissés. Mais Seigneur, nous voyons combien tu as pris soin de cet homme qui n'avait plus d'espoir. Tu l'as restauré, tu lui as donné une nouvelle destinée. Tu as fait de lui une nouvelle créature. Et je crois que tu veux le faire encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont blessés par la vie, qui ont été maltraités, humiliés. Mais Seigneur, toi, tu as un plan de restauration, de bénédiction. Et je veux te bénir pour cela. Tu l'as fait pour moi, je sais que tu veux le faire pour chacun. Et Seigneur, je te loue pour cela.